Tu souffres à ce moment-là ?
Terriblement. J'ai mal de moi, là. Tu vois, il y a rien qui va. J'ai une sonde. C'est la totale. Je suis rentré jeune foufou qui fait la radio et qui rigole à je fais pipi dans un tube, j'ai deux drains qui me sortent, j'ai une cicatrice énorme, je peux même plus ouvrir les yeux.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment ? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Jonathan.
Bonjour Sarah.
Alors, tu as presque 35 ans. Tu vis dans le sud de la France. Mais j'aimerais bien que tu me racontes un peu quelle était ta vie au début de ta vingtaine. Voilà, ce que tu faisais, où tu vivais, à quoi ressemblait ton quotidien.
Alors, au début, 20 ans et un petit peu plus, je revenais des États-Unis. Et là, je vis la vie d'un enfant, enfin d'un pré-adulte de 22 ans. Je travaille à la radio. Voilà, je m'éclate à la radio, je travaille pour un morning. Et le reste du temps, je sors avec mes copains.
Un morning, c'est-à-dire une émission du matin qui se fait très tôt.
Exactement, très tôt, qui se fait réveil à 3h40 du matin. Voilà, arrivé à la radio, 4h15. Je prenais pas une douche tous les matins, c'était un petit peu tôt. Voilà, vie à 1000 à l'heure.
D'accord.
Vie à 1000 à l'heure qui me plaît, vie à 1000 à l'heure professionnellement.
Faut dire aussi que tu faisais des études de journalisme en parallèle.
Exact. J'étais en troisième année de journalisme à ce moment-là. Je finissais la licence. Voilà. Et donc, vie à 1000 à l'heure, les cours, la radio et le temps libre. Honnêtement, on sortait avec les copains
de la radio.
Voilà, les concerts, les soirées. Bon, une vie bien remplie à ce moment-là.
Et une vie heureuse, de ce que tu as l'air de
heureuse,
dire.
Très heureuse. Je vivais chez mes parents. Donc, les responsabilités n'étaient pas sur mes épaules. Une vie au top.
Et avec les filles, c'est comment à cette époque-là ?
Ça roule. Ça roule avec les filles, très bien. Je suis assez tchatcheur et le monde de la radio fait que tu l'es encore plus. Voilà, parfois tu te prends pour ce que t'es pas aussi, mais du coup ça te donne de l'assurance. Et quand mon producteur, je tairai le nom, qui était un assez gros fêtard, on sortait la semaine, on rentrait dormir à la radio, sous la console.
Ouais, donc c'est des super années, super expériences, super rigolades.
À ce moment-là, j'ai 20 ans, je peux pas rêver mieux. J'ai 20 ans, j'adore rigoler, je me prends pas au sérieux et j'aimerais que ma vie soit pas trop prise au sérieux. Voilà, c'était parfait.
Et alors, pardon, peut-être que tes parents vont écouter cet épisode, mais est-ce que tu peux nous dire si tu, à l'époque, tu prends des substances ou des choses un peu interdites ? On va dire les choses. Est-ce que tu prends de la drogue d'une façon ou d'une autre ?
Non, à ce moment-là, oui. Alors, très honnêtement, oui, le week-end quand on sort. Alors, pas du tout, comme on pourrait le penser, je prends pas des substances, je prends pas de la drogue pour tenir pour mon travail.
D'accord.
On n'est pas du tout dans ce milieu-là, comme tu pourrais penser pour la pub ou ce genre de choses, pas du tout.
Dans les années 80.
Exact. C'est plus le week-end, on sort avec les copains connaissent des gens, le milieu un peu star system.
Ouais.
Et assez familier avec ça. Donc c'était facile. Voilà.
Okay.
On n'en cherchait pas forcément, mais il y en avait.
Okay.
Voilà. Donc à ce moment-là, je ne brûle pas la vie par les deux bouts parce que j'ai une stabilité professionnelle
ouais.
Moi, qui fait que je suis content de me lever. Mais si tu prends une vue d'ensemble à ce moment-là, enfin, ouais, tu prends une vraie vue d'ensemble, tu prends de la hauteur, c'est une bonne vie de rocker sans guitare. Voilà.
J'aime bien le recul que t'as sur cette époque-là parce que tu te prends pas pour ce que t'étais pas, mais tu racontes que tu faisais le kéké, quoi.
Je fais le kéké grave. Je sors de la radio, je te dis, je descends les escaliers, une grande radio avec un très grand escalier. Ouais, il y a des gens qui attendent des stars que je ne suis pas. Enfin, je sors, j'ai envie de mettre mes lunettes de soleil, et je le dis avec la plus grande honnêteté. C'est très drôle. C'est très drôle Mais il faut savoir garder les pieds sur terre à ce moment-là, parce que très vite, tu peux dégoupiller. Ouais. Et au final, tu n'es rien. Je veux dire, ne dégoupille pas, parce qu'il n'y a personne qui t'attend.
Et puis, tu n'as que 20 ans ou 22 ans.
Il n'y a que 20 ans, et à la base, je raconte des blagues et je réponds au téléphone, à la radio.
Voilà. Oui, tu n'es pas animateur, il faut le dire.
Exactement.
Tu fais l'accueil des gens qui appellent, mais tu fais quand même un peu des blagues.
Exact.
Un jour, tu es un peu malade, genre la crève ou une angine, ce que j'ai en ce moment. Depuis 2 mois. Et de tout ce que tu nous racontes, on comprend que tu n'es pas vraiment le genre à aller chez le médecin tous les 4 matins. Qu'est-ce qui se passe avec cette angine-là? Pourquoi celle-là, tu ne la gères pas par-dessus la jambe?
Alors, je la gère par-dessus la jambe, très honnêtement. Okay. Là, ce que tu as dit, c'est vrai, c'est-à-dire... Le Doliprane doit être la chose la plus forte que je dois prendre pour me soigner. Voilà. Si j'ai mal au pied ou à la tête, Doliprane. À ce moment-là, j'ai la chance d'avoir une vraie mère juive qui fait que je rentre à la maison, j'ai mal à la gorge. Tout le monde a mal à la gorge. Je sens que c'est pas juste un mal de gorge parce que quand j'avale, j'ai mal. Donc, on connaît, c'est une angine. Voilà. J'en parle avec ma mère qui me dit, je me rappelle, je suis assis dans le salon et qui me dit, on appelle le médecin. En plus, elle me dit, va voir le médecin ou je l'appelle, il vient. Je dis franchement, non maman, à ce moment-là, j'ai pas besoin, je vais aller à la pharmacie, on va prendre un antibiotique, l'histoire s'arrête là. Ma mère, que je remercie, ne lâche pas l'affaire, appelle le médecin sans que je le sache, sonne à la maison et arrive pour regarder mon angine. À ce moment-là...
C'est un médecin que tu connais ?
C'est un médecin que... Alors, c'est un médecin qui s'était occupé de... On le connaissait parce qu'il s'était occupé de ma grand-mère, mais que je ne connaissais pas. Je pense que ça doit être la première fois que je le vois ou que je l'avais déjà aperçu chez ma grand-mère. Donc pas du tout un médecin de famille non plus qui nous suivait depuis des années. Il m'ausculte pour l'angine, angine blanche. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai souvenir, je sais que ma mère n'est pas dans le salon. Donc on n'est que tous les deux. Il m'écoute le cœur avec le stéthoscope, je me rappelle encore, le dos, le cœur. Et là, il a une espèce de rictus vocal, voilà, où il te fait un petit « Il y a un bruit où tu dis, bon, c'est pas ce que t'attends de ton médecin au moment où t'as juste une angine. Voilà. Et il me dit, bon, il y a quelque chose qui va pas, voilà, avec le cœur, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ce serait bien d'aller faire vérifier ça assez rapidement. Je sens que le assez rapidement est important. Faire une échographie cardiaque, voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose, s'il y a rien. Voilà. On en est là à ce moment-là. Moi, quand il me dit ça, bon, je stresse pas plus que ça. La seule chose qui m'importe, c'est qu'on n'en parle pas à ma mère. Moi, on fait parfois des fixettes. Je lui dis, voilà, il n'y a pas besoin d'en parler à mes parents. J'ai des parents qui sont très angoissés. Je voulais les protéger de ça. Et à ce moment-là, je décide de vivre ce début d'aventure que je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je décide de la vivre avec mon frère, que j'appelle, qui est comme mon deuxième père, mon meilleur ami. Je l'appelle et je lui dis, bon, on va faire les choses ensemble. On va aller à ce premier rendez-vous ensemble. On ne dit rien aux parents pour le moment. Et on verra ce qui se passera. On verra ce que va nous dire cette première échographie. À ce moment-là, j'ai aucune certitude sur ni ce que j'ai, ni ce que j'ai pas, ni ce que je peux avoir.
Et t'as pas dit ce que ça pouvait potentiellement être. Il a juste dit, fais checker ton cœur.
Fais checker ton cœur, avec insistance. Mais là, on parle pas, on parle de rien d'autre.
Ouais.
Voilà, on est vraiment sur une vérification assez, peut-être banale à la base. Voilà. Je suis né avec un souffle au cœur. Je pense que à l'époque, on prenait ça pas par-dessus la jambe, mais... Bon, il a un souffle au cœur, vous ferez vérifier ça, si tout va bien, il n'y a pas la peine. Voilà.
Et comme tu es en très bonne santé...
Super bonne santé, sportif, toujours foufou, toujours à 2000 à l'heure. Voilà.
D'ailleurs, tu fais du sport?
Alors, à cette époque-là, je fais énormément de sport. Je cours principalement, surtout l'année précédant cette angine. Je faisais beaucoup de sport. Je cours énormément à ce moment-là, de mémoire. 10 kilomètres 2 à 3 fois par semaine.
D'accord.
Voilà, que je faisais dès que je sortais de la radio. Donc en plus, on a fini l'émission, on est un petit peu fatigué, on met le short et on va courir. Un petit peu de foot, un petit peu de tennis. Je suis très sportif et surtout...
T'aimes ça?
J'aime ça et je suis à 2000 à l'heure.
Okay. Voilà,
c'est-à-dire je parle vite, je m'énerve vite, je rigole vite. Voilà.
T'as une vie intense, quoi.
J'ai une vie intense et le sport l'était aussi à ce moment-là.
Donc, ce premier examen, il se fait où? Il se fait comment? Tu vas avec qui? Comment ça se passe?
Alors, ce premier examen, donc, avec mon binôme, avec mon frère, voilà, avec ma copine de l'époque. Voilà, et là, on va au CHU de Créteil, le CHU Mondor, Henri Mondor.
Ouais.
Voilà, Feu Henri Mondor, qui n'existe plus.
Je crois que c'est un CH, mot pas bardoisien.
On arrive dans cet endroit, honnêtement, Walking Dead. On arrive, c'est un énorme bâtiment, vide, allumé, il y a 4 néons qui sont allumés. Voilà, là, on est avec mon frère, on se regarde dans le blanc des yeux, on ne sait pas ce qu'on va faire. Enfin, c'est ça aussi, c'est un inconnu, c'est abyssal.
Ouais.
On ouvre la porte, voilà, on marche dans les couloirs. Là, il y a un moment d'attente, c'est-à-dire parce qu'on va voir la personne qui va nous faire les coups,
ouais.
Voilà, qui nous dit attendez là dans le couloir. Et avec mon frère, on est, le rire nous permet de faire passer beaucoup d'émotions négatives,
ouais, voilà, et d'angoisse.
D'angoisse, exactement. Et à ce moment-là, nous on trouve rien de mieux que pour rire de se mettre chacun à un bout du couloir qui est vide, mais qui est grand. Et on décide de se montrer nos fesses.
Je rire parce que je connais.
Oui, bah, bien sûr. Voilà. Et on décide de se montrer nos fesses. On se balade. Cul nu, voilà, au CHU Henri Mondor. C'est pas pour ça qu'il a fermé, mais en tout cas, on s'y balade comme ça. Bon, on rigole, franchement, on pense à autre chose. Je précise qu'aussi, on est un peu pressé, parce que juste après cet examen, qui est quand même un examen important, on doit vite filer au Parc des Princes, parce qu'il y a un match de foot, et qu'il est hors de question de le rater, quel que soit le résultat de cet examen. Voilà, donc là, on attend, on est comme ça, on est stressé, mais on rigole en même temps. Voilà. L'échographe nous demande de rentrer. Il me fait une échographie, ça va très vite. Je suis assez étonné de la vitesse à laquelle ça va. Et là, en fait, on découvre que j'ai une valvulopathie aortique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, le cœur a 3 valves,
ouais.
Voilà, qui fonctionnent, qui font rentrer et sortir le sang, et moi, j'en avais une qui ne fonctionnait plus. Donc, le cœur pompait, deux fois plus, mais une fois et demie plus que ce qu'il devait, donc il se fatigue beaucoup plus, et donc il faut remplacer cette valve qui ne fonctionne plus. On ne peut pas rester comme ça. Donc là, il me dit, voilà, vous avez 2 mois pour vous faire opérer de cette valve. Il m'en dit pas plus, il me parle pas de l'opération, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'on va me faire. Il me renvoie, du coup, vers un autre, médecin.
Ouais.
Il me dit, nous, ici, on le fera pas. On le fera pas à cet endroit-là. Parce que l'endroit allait fermer et que c'était pas conseillé de toute façon de le faire là, à cette époque-là, ça avait pas.
C'est-à-dire que le mec te dit, ne vous faites pas opérer chez nous.
Ouais, le mec me dit, ne vous faites pas opérer, vous allez rentrer comme ça, je sais pas comment vous ressortirez. Alors, entre les lignes, c'est comme ça. Donc on va dire, merci beaucoup, on va y aller.
Merci, au revoir.
On va partir et là s'ensuit le début.
Voilà, donc le match de foot déjà.
Là, évidemment, on part. Je me rappelle que quand je sors de, moi, je suis pas du tout drama comme garçon pour peu de choses, enfin pour quasiment rien. Je me rappelle qu'en sortant du CHU, je m'assois sur les escaliers qui sont juste devant. Je m'assois en me disant c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Je vais voir. J'ai une angine. Parce que tout ça se passe dans la même semaine. Le médecin vient lundi chez moi, c'est vendredi, parce que le match de foot est le vendredi soir. Vendredi, j'apprends que je dois me faire opérer. Je dis, c'est pas possible. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, on encaisse la chose. Heureusement que je suis avec mon frère.
C'est un grand frère ?
C'est un grand frère, c'est comme un père. C'est un grand frère, on a quasiment 15 ans d'écart. Voilà. Donc, c'est autant mon grand frère que mon père, que mon meilleur ami. Donc, ça permet de vraiment... Heureusement qu'il était là pour que je puisse le partager, que ce soit pas aussi lourd pour moi et que c'est un rigolo et que bon, voilà, il pleurait pas sur mon épaule, je pleurais pas sur la sienne. Voilà, on se disait plus, allez, prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Prochaine étape, le foot. Donc, on va au parc, allez Paris, on s'assoit, on allait au parc toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines. Je me souviens, alors je peux pas donner le score pour pas mentir, mais je sais qu'on gagne et que moi, qu'à chaque fois qu'on gagnait, on avait une espèce de petit rituel lui et moi. Moi, je montais sur mon siège, je faisais le foufou, il me portait. Je me souviens qu'on marque, que je fais le foufou, et là, la première phrase qu'il me dit, fait attention à ton cœur. La première phrase qu'il me dit, donc je sais déjà qu'on est passé sur, une nouvelle aventure déjà. Mmh. Enfin, je sens que ça te fait prendre conscience, te dire que, ok, on va faire attention. Bon. On gagne, on est content, voilà, on rentre à la maison, et moi je suis toujours dans cette idée-là de dire à mon frère, on ne dit rien aux parents. On ne dit rien. Viens, on le fait tous les deux. Moi, je suis dans un déni de la vie, en fait. Là, je me dis, j'ai 23 ans, je me dis, allez, viens, on le fait. Je suis foufou à ce moment. Je lui dis, on dit rien. On va jusqu'à l'opération ensemble. Et à ce moment-là, on leur dira. Bon, lui, il me dit, oui, c'est ça, ok. Je te ramène à la maison. Il me dit, maintenant, on monte, on va leur dire. On monte. On convoque mes parents qui sont, là, à ce moment-là, en pyjama, dans leur lit, parce que 23h, 23h30. On leur dit, faut aller dans le salon, faut qu'on vous parle. Bon. Ils s'angoissent. Là, je sais que ma mère pense que je vais lui dire que je vais me marier, que j'attends un enfant. Voilà, on est plutôt sur un truc joyeux. Alors, et là, moi, toujours très brut de décoffrage, je leur dis pas un mot et je leur dis, bon, voilà, avant 2 mois, il faut que je me fasse opérer du cœur. Merci, bonsoir, à demain. Ouais, voilà la scène. Là, bon, je sais pas, ma mère a dû s'évanouir pendant une demi-seconde. Mon père qui comprend pas, comme je fais beaucoup de blagues, je pense qu'à un moment ils se sont dit, mais attends, c'est quoi cette connerie? C'est pas possible. Attendez, faut bien comprendre que pour mes parents, tout va bien, je suis en pleine forme. Je travaille, je suis rigolo, je fais du sport, je vais au parc, je reviens, ils vont me faire opérer du cœur. Là, bon, petit moment drama quand même, voilà, bon, ils pleurent. Moi, je suis plus énervé qu'autre chose parce que jusqu'à présent, là, je suis dans un cocon. Je suis dans un cocon avec mon frère, personne d'autre le sait. Donc, j'en parle pas tous les jours. J'y pense, mais pas 24 heures sur 24. Et il y a personne autour de moi qui m'amène une énergie négative, même avec amour, mais qui m'amène une énergie triste. Et c'est là où, à ce moment-là, c'est vrai que je vois mes parents qui sont tristes, qui sont inquiets. Tu prends un peu le poids de ce qui t'arrive aussi. Jusque-là, j'étais très léger, j'étais très enfant, très enfantin. Là, tu prends le truc un peu plus comme un adulte. Tu te dis, ok, ça me touche moi, c'est une chose. Moi, je vais le gérer, mais d'une facilité, tout va bien se passer, mais il faut gérer les autres. Et gérer les autres, c'est pas facile. Il faut gérer leur sensibilité. Parfois, t'as pas envie de gérer leur sensibilité, parce que t'as envie de dire, attendez, c'est mon cœur, c'est mon problème, et là, il faut que je vienne vous consoler. Non, en fait, non, ça me saoule. Moi. Bon, voilà. L'info est donnée.
Et ils hallucinent pas que t'aies gardé ça pendant une semaine, que tu sois déjà allé voir un médecin, etc.
Non, je pense qu'à ce moment-là, ils engueulent mon frère. Voilà, je pense que quand je suis pas là, je pense qu'il se prend une petite soufflante en disant, mais toi, tu te fous de nous. Mais après, on est une famille comme ça, et je sais que eux, ils ont aussi apprécié le fait que moi et mon frère en étaient soudés. C'est pas venu dans la conversation. Je leur ai offert une semaine de plus de répit, en vrai. Hein. Parce qu'à partir de là, faut savoir que toutes les nuits, jusqu'à mon opération, qui va arriver même pas un mois après, ma mère rentre tous les soirs dans ma chambre pour vérifier que je respire. On en est là.
Ouais, comme un nourrisson.
Comme un nourrisson, mais en même temps, on en est là, parce que le médecin te dit, il faut se faire opérer maximum dans les 2 mois, sinon tu meurs. Il y a pas, voilà, on va pas passer, il y a un risque de danger. Là, c'est très cartésien.
Risque de danger.
Voilà, c'est très cartésien. C'est soit tu vis avec un nouveau cœur, soit tu meurs avec ton cœur. Et la messe est dite. Voilà.
Et donc, tu choisis comment ça se passe pour choisir qui t'opère?
Alors là, on ne fait rien tout seul chez nous, hein. Là, on est en troupeau familial. Voilà. Donc, il y a mon frère, sa femme, il y a mes parents, il y a ma sœur. Voilà. Et donc là, on hésite entre 2 endroits. Alors, en fait, on le fait surtout en fonction du chirurgien.
Ouais.
Voilà. On rentre dans le bureau du médecin. Le médecin nous plaît. Enfin, le médecin me plaît. Mais j'aurais pas pris la décision tout seul. Mais l'endroit nous plaît pas. Donc, bon, très vite, on parle avec lui. On sait que ça sera pas là. Et ensuite, c'est un deuxième endroit qui est à Pompidou, à l'hôpital Pompidou, avec le professeur Fabiani. Voilà. Donc là, on arrive à Pompidou, c'est magnifique. Moi, j'avais la chance de n'être jamais allé à Pompidou. C'est déjà un endroit, bon, c'est beau. Le professeur était vraiment, c'était un ponte, donc c'est rassurant. Et j'ai vu aussi toute ma famille rassurée en allant le voir. Donc moi, ça m'a rassuré.
On rappelle que t'as un bébé.
Je suis un bébé, je vis chez mes parents. C'est important de le dire parce que je suis un bébé, j'ai 23 ans. Moi, je connais des gens à 23 ans, c'est pas des bébés.
Ouais.
Moi, à ce moment-là, il faut être très honnête. Comme je n'étais pas une star, j'étais pas un adulte à ce moment-là, j'étais pas fini. Non, j'y vais chez mes parents, on m'a porté à manger, enfin, la belle vie,
ouais.
La belle vie. Donc, moi, je suis le flot,
ouais.
Tu vois. Ma mère, elle m'aurait dit, c'est mieux d'aller à Toulouse. Ben, je dis, allons à Toulouse, pas de problème. Donc là, on se dit, ok, professeur Fabiani, c'est le top, l'endroit est beau.
Il t'explique un peu l'opération?
Non, il m'explique l'opération, je comprends, donc l'idée, qu'est-ce que c'est? On va m'ouvrir le thorax, voilà. On va casser mes côtes, parce qu'il faut atteindre le cœur. Voilà. Là, une fois qu'on a le cœur, donc on est sur une opération à cœur ouvert. Hein, voilà. On ouvre le cœur, et là, on va me mettre une valve. Et là, c'est le premier choix que j'ai à faire. Parce que la valve, il y a 2 possibilités. Soit tu mets une valve en port,
ouais.
Comme ça, voilà, qui doit se faire remplacer, ou soit une valve mécanique, qui nécessite de prendre des médicaments à vie, plus une prise de sang, une fois par mois par exemple, à vie également, mais qui permet de ne pas être changé.
D'accord.
C'est une opération de vieux, ce que je fais. C'est quelque chose qui t'arrive à 75 ans, je m'en suis rendu compte après. Donc la plupart des gens choisissent une valve
de port,
parce que c'est beaucoup moins contraignant pour la suite. Et je pense que bon, tu l'as fait à 75 ans, pas sûr que tu vas avoir à la changer.
Ouais.
Moi à 23 ans, bon, je n'ai pas trop d'hésitation, on part sur la valve donc mécanique, qui fait un bruit, qui fait un tic-tac. Hein. C'est-à-dire que si tu te mets dans une pièce avec moi, je m'emballe un peu, je suis un peu stressé, là, tu vois, quand tu t'emballes, tu entends le tic. Aujourd'hui, ma femme, elle peut se réveiller la nuit quand elle n'entend pas le tic de mon cœur.
Ah, c'est drôle.
Ouais, ça l'inquiète.
Ça la berce.
Ça la berce. Et comme je suis maigre, tu l'entends facilement. Voilà. Donc on choisit ça, mais je sais que ça va être contraignant. Je sais que la vie de foufou que j'avais avant, là, je comprends qu'elle sera. Elle va être moins fofolle. Je vais continuer à profiter de la vie, je vais continuer à faire plein de choses, mais je sais que maintenant, tous les soirs, je prends un anticoagulant, pour pas que mon sang soit trop épais ou trop fluide, pour pas faire de cailloux, et je sais qu'une fois par mois, je dois faire une prise de sang.
Oui, c'est pas non plus la contrainte.
C'est pas la contrainte, mais tu rentres déjà dans ton petit processus d'après-opération.
Bon.
Mais la contrainte, donc, pas
dingue. Bon, donc tu rentres à l'hôpital.
On rentre à l'hôpital, là, j'ai des souvenirs que 2 jours avant l'opération, j'ai mes copains qui viennent. Voilà, franchement, j'ai pas beaucoup de copains, mais ceux que j'avais à l'époque, en tout cas, ils viennent me voir, on passe du temps ensemble, la famille vient, on attend, c'est un petit peu long, ce moment-là. Moi, je serais très pressé, je voulais me faire opérer tout de suite, parce qu'ils m'avaient dit, on peut se faire opérer demain, mais banco, banco. Arrive le jour de l'opération. Alors, la veille de l'opération, j'ai ce souvenir-là, j'ai mon frère, toujours lui, pot de colle, et mon meilleur ami de l'époque, qui viennent passer la soirée avec moi. Il y a un match de Ligue des Champions du PSG, pour tout le raconter. On commande des Pizza Hut, qu'on doit aller chercher en bas de l'hôpital. Ils les livrent pas dans la chambre. On mange la pizza, on passe la soirée ensemble. Bisous. Bisous un peu particulier. Voilà. Je me couche, je crois que je dors. J'ai pas le souvenir d'avoir passé une nuit pleine. Ouais, je dors. Là commence Space Mountain. On vient me réveiller... assez tôt pour une douche à la bétadine.
Attends, mais t'as raté une étape. Parce que moi, tu m'as raconté le passage du chirurgien avant et surtout le passage en blouse. Il y a 2 choses très rigolotes à nous raconter avant le jour d'opération.
Il y a quelques années de cela, j'ai décidé, toute connaissance de cause, de me faire tatouer. Alors, même pas en France en plus, comme ça je suis sûr que personne n'aurait pu le savoir. Donc je me fais tatouer le bras. Enfin, en l'occurrence, je me fais tatouer les 2 bras. Pas entièrement, mais je me fais bien tatouer. Je dis rien à mes parents. Et il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vis chez mes parents. Ils ne les voient pas. Mais je sais qu'en me faisant opérer, il y a bien un moment, on va voir mes bras. Et on est l'avant-veille de l'opération. Et à ce moment-là, la seule chose qui m'inquiète, c'est absolument pas de me faire opérer ou comment on va ouvrir mon thorax et comment on va le refermer. C'est, mais comment je vais faire avec mes parents pour mon tatouage ? Bon, arrive le moment où je mets la blouse, manche courte, dommage, et ma sœur les avait pas vues non plus. Voilà. Ma sœur n'avait pas vu mes tatouages, donc c'est ma sœur qui les voit en premier. Bon, c'est un peu choquant, et elle me balance. Donc elle descend, elle va voir mes parents à la réception, et elle leur dit... je ne sais pas comment elle leur dit, justement, mais je pense qu'elle leur dit « Jojo est tatoué ». Ok. Ils arrivent dans la chambre... La première chose qu'ils me disent à ce moment-là, c'est « Bon, montre-nous. » Et là, moi, serein, je vais me faire opérer du cœur. Non, il n'y a pas meilleur alibi, meilleure excuse. Donc, je leur dis « Écoutez, je prends mon rôle. » Et j'ai dit « Écoutez, on va pas s'engueuler pour ça. Je me fais opérer après-demain du cœur. Bon, j'ai le bras tatoué. Non, on va pas en faire une histoire. » Bon, et ça passe. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était ma vraie inquiétude.
Alors, moi, je voudrais que tu nous racontes aussi la petite surprise du chef, du chirurgien, la veille de l'opération.
Alors, tout à fait. En fait, à ce moment-là, je me rends compte que déjà, le chemin jusqu'à l'opération, il est long. Il est long, avant que je te parle de ce rendez-vous avec le médecin, il est long parce que, par exemple, il faut faire des prises de sang pour vérifier que t'as pas le sida, t'as pas ça. Donc, tu passes des trucs. Il faut aller faire un rendez-vous pour les dents, pour pas que t'aies de tartre. Parce que sinon, tu peux avoir des infections. Donc, je me disais aussi, chaque rendez-vous que je fais, je me dis... J'espère qu'il va me dire oui, j'espère que ça va aller. Et à la fin, j'allais au rendez-vous en me disant, j'espère qu'il va pas y avoir de problème, que je puisse bien me faire opérer à cette date-là. C'était vraiment mon inquiétude. Et on arrive à ce dernier rendez-vous, où là, franchement, ça y est, tout est bouclé, il n'y a plus qu'à. Et là, le médecin nous dit, il est avec sa brigade, il est avec 5-6 collègues des internes derrière lui. Et là, il nous dit, bon, il peut y avoir un problème, je verrai bien sur place, je verrai bien pendant l'opération, si il faut changer l'aorte ou pas. Bon, là, c'était le coup de massue un petit peu, parce que 2 choses. Déjà, il nous l'explique pas bien. Il nous le lance comme ça, comme tu lancerais un beefsteak à un animal. Donc, nous, on n'y connaît rien. On n'est pas médecin. OK? Pour nous, c'est une catastrophe. On se dit, attends, ça a changé l'aorte. Pour nous, c'est comme une greffe. Enfin, on sait pas où on va. Et il s'en va. Voilà.
Il part de la chambre.
Il part de la chambre avec son équipe. Donc là, on est un peu, on est un peu abasourdi. Je vois mes parents, je vois que ça va pas. Je vois que c'est un peu vraiment le dernier coup de massue qu'on n'attendait pas. Et là, ma famille va lui parler, s'entretient avec lui. Et là, en lui disant, attendez, vous pouvez pas partir comme ça. On peut pas lancer les choses comme ça. Nous, ça nous inquiète, on sait pas. Et là, il revient, beaucoup plus pédagogue. Il a entendu. Et là, il nous explique. Il nous dit non. Il nous dit, au cas où, je pense que là, il prend toutes les précautions qu'il faut. Il nous dit, voilà, au cas où, voilà ce qui pourrait arriver. Mais il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que ce qui fait que tu te dis, bon, que le coup le plus dur, c'est quand on t'annonce que tu vas te faire opérer. Mais finalement, tout le chemin, il y a toujours, t'avances, tu tombes dans un trou, tu te relèves. Il faut se rendre compte qu'à la fin, mon seul souhait, c'était de me faire opérer. Opérez-moi.
Et que ça s'arrête. Quoi.
Arrêtez. Je veux dire, opérez-moi, on verra bien après.
Et donc, le jour de l'opération arrive.
Le jour de l'opération arrive, le matin de l'opération arrive. Douche à la bétadine. Alors ça, je me souviens encore parce qu'on te rase, alors pas tout le corps, je suis un peu poilu. Et je me souviens, j'ai ce souvenir-là qu'on me rase, par exemple, l'intérieur de la cuisse et que la fille, elle me coupe. Des souvenirs comme ça. Pas agréable, 6h du matin.
Et quand tu penses à tout le sang qu'il va y avoir après, cette estafilade,
c'est
rien.
Ouais, c'était cette coupure-là qui m'a mis dedans. Je me souviens que j'avais pas les larmes aux yeux, mais je me dis, même elle peut pas me raser, c'est pas possible. Et j'ai un souvenir, alors ça c'est...
Parenthèse, on dit quand même merci à tous les personnels soignants.
Ils m'ont sauvé la vie.
À 6h du matin, rase les fesses
des garçons qui ne connaissent pas et qui n'ont pas envie non plus. Évidemment, ça, je leur dis plus que merci. Et j'ai ce souvenir-là, moi je porte énormément de bracelets. Et quand je les enlève, voilà, ça me met un coup. J'enlève vraiment une partie de moi à ce moment-là.
Donc l'opération.
Douche à pédale. On ne sait pas encore quand est-ce que tu vas. Quand à quelle heure tu te fais opérer. Il n'y a pas une horaire. Bon, on vient me chercher. Opération. Là le matin, c'est ma sœur. Ma sœur qui est avec moi, qui m'emmène jusqu'au bout. Donc je suis dans le lit. Je me souviens que la dernière chose que je fais avec elle, c'est qu'elle me regarde derrière le hublot de la porte au moment où je pars sur l'opération et je lui fais un cœur avec mes mains. Souvenir que j'ai. Et là, on rentre dans la salle d'opération. Dernière phrase, vous allez bien, pensez à quelque chose qui vous plaît. Au moment où on met le masque. Très nul, je pense à la mer et cocotier. Alors, très nul, mais très nul. Et je m'endors.
D'accord. Et donc, puisque tu nous parles aujourd'hui, tu te réveilles.
Et je me réveille. Et je me réveille. Et là, je me réveille, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Je me réveille, j'ai le tube dans la bouche. Je suis intubé. Là, honnêtement, je pense que je vais mourir là tout de suite. Au moment où j'ouvre les yeux et j'ai ce souvenir, mais je le revis avec le tube dans la bouche.
L'asphyxie.
Je vois le médecin, l'infirmier. Je lui dis, j'essaie de lui faire comprendre qu'il faut me l'enlever. Et là, je me souviens de sa réponse. Il me dit, ouais, j'arrive 2 minutes. Mais moi, dans ma tête, 2 minutes, je ne vais pas les tenir les 2 minutes. Ce n'est pas possible. Il faut me l'enlever. Bon, il me l'enlève. Là, je suis en soins intensifs. Donc, je me souviens d'avoir vu mes parents qui sont restés 10 heures dans le hall en attendant qu'on puisse me voir. Donc je les vois à travers la vitre, je leur fais un petit coucou. Et là, s'ensuit 24 heures d'horreur, vraiment d'horreur. Soins intensifs, donc lumière blanche. Là, je te raconte ça, j'y suis là, tellement c'est encore imprégné. Donc lumière blanche qui ne s'éteint jamais. Va et vient à côté, parce qu'il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, donc tu ne dors pas. Je regarde mon torse, j'ai une cicatrice. Par exemple, ça, on n'en avait jamais parlé, tu vois, de la cicatrice, de la taille, comment ça va être. J'ai une cicatrice énorme, mais énorme avec...
De haut en bas,
avec deux drains. Donc, deux drains, pour ceux qui ne savent pas, c'est deux tuyaux qui te sortent du ventre pour enlever le mauvais sang. Mais donc, tu te réveilles, c'est Avatar, là, l'histoire. Je regarde mon ventre, j'ai deux tubes qui me sortent, j'ai une cicatrice qui est grande de 30 cm, j'ai des fils de fer qui me sortent parce que c'est comme ça qu'on a refermé mon thorax.
Tu souffres à ce moment-là?
Terriblement. J'ai mal de moi là, tu vois. Il y a rien qui va. J'ai une sonde, donc c'est la totale. Je suis rentré jeune foufou qui fait de la radio et qui rigole à je fais pipi dans un tube, j'ai deux drains qui me sortent, j'ai une cicatrice énorme, je peux même plus ouvrir les yeux.
Mais on m'a sauvé la vie
et j'étais très heureux. Et à ce moment-là, j'étais très heureux. Mais bon, à ce moment-là, tu penses pas à ça. Tu te dis pas on m'a sauvé la vie. Tu me dis dans quel état on m'a laissé là.
Ouais.
Et oh.
Et au-delà de ce truc visuel très impressionnant, physiquement, on te soulage ta douleur ou tu souffres?
Non, physiquement, on me donne de la morphine. J'ai même plus souvenir comment ça marche. Je sais parfois, t'appuies sur un bouton, mais j'ai plus souvenir. Je sais que je dis que j'ai mal et qu'on s'occupe de moi. Donc,
ouais.
Je suis très très bien géré là-bas. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Après, donc à ce moment-là, tu n'as plus d'estime de toi. Ça, c'est important. C'est pas grave, mais t'as plus d'estime. T'es tout nu. t'as pas d'armure, tu vois.
T'as un verre de terre après.
T'as un verre de terre, exactement, exactement. Et là, on te dit, bon, quand est-ce que je sors de cet endroit? Quand est-ce que je vais pouvoir aller dans une chambre? Là, ça dépend pas de toi, ça dépend comment tu récupères. Et arrive le lendemain matin. Et alors, au début, on ne sait pas. Il est 7h, 8h. Et à peut-être 9, 10h, parce que je sais que c'était dans la matinée, on me dit, ça y est, c'est bon, vous allez pouvoir monter dans la chambre. OK. Le souvenir que j'ai de ce transfert-là entre le son intensif et la chambre, c'est que à moi, on doit me changer de lit. Donc, on met un lit parallèle à celui que j'ai, mais à ce moment-là, je peux pas aller sur le lit tout seul. Donc j'attends de l'aide et l'infirmière me dit non, vous le faites.
Et moi j'ai c'est pour ton bien, c'est pour
bien sûr. Mais à ce moment-là, je me dis mais c'est un salaud. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Et j'ai l'impression que si je m'appuie sur mes bras, tout va péter. Je connais pas. C'est pas là à ce moment-là, c'est plus mon corps. Ouais. C'est mon corps, mais on a refait. Il faut qu'on m'apprenne. Moi, j'ai peur de. Voilà. Bon, j'ai ce souvenir-là que je vais sur le lit, j'ai très mal, et là j'arrive dans ma chambre. Alors, j'ai de la chance, hein, j'ai une chambre toute seule. Alors, problème de remontée d'égout. Je le dis parce que ça, c'est des choses qui, du coup, ça reste marqué, voilà. J'ai une très belle chambre, mais qui puait. On en a pour une semaine.
Okay.
On en a pour une semaine. Très difficile. Très, très, très difficile. Je pense que c'est ce qui a été le plus dur pour moi, c'est cette semaine-là.
D'accord.
Là commencent mes problèmes de dos. Parce que comme on m'a cassé devant, on m'a cassé derrière, enfin, tout a bougé. Ouais. Je me souviens, j'ai ce lit en mémoire encore aujourd'hui. Je peux plus bouger le dos, ils m'ont tué le dos. Je me souviens, je dis, je vais plus jamais pouvoir marcher, c'est pas possible, j'ai mal. On dort pas parce que c'est normal. 3h du matin, piqûre, 5h du matin, piqûre, on vérifie que tout va bien. Donc on reste dans un état végétatif pas bien. Et la journée, il y a quelqu'un qui m'a sauvé la journée, Pierre Belmar, parce que je regardais tous les après-midi à l'époque sur D8. Ça date. Les histoires extraordinaires de Pierre Belmar. Et j'ai souvenir là, c'est si tu rentrais dans ma chambre à ce moment-là, il y avait au moins 3-4 histoires qui suivaient. Hein, parce que je pense qu'il n'y avait pas d'autres émissions. Et tu venais dans la chambre, j'ai le souvenir hein, de ma sœur qui est venue, qui s'est assise à côté de moi, qui est repartie, je ne lui ai pas dit un mot. J'étais dans un truc, en plus, je n'avais pas toujours envie de parler. Parfois, je suis très chié comme garçon. Si tu viens, je n'ai pas envie de te parler, je ne vais pas te parler parce que je suis fatigué, et je ne vais pas faire l'effort à ce moment-là. Je n'avais pas envie de le faire. Et donc, je me rappelle qu'elle m'a dit, je suis venu, on n'a pas parlé, je suis reparti. Et je regardais Pierre Belmar, j'étais super content.
Merci Pierre Belmar.
Voilà, je vous fais la gentillesse de pas vous faire l'imitation, mais merci Pierre Belmar. Des souvenirs comme ça, voilà, qui m'a accompagné pendant cette semaine-là à l'hôpital, qui était vraiment pas simple. Vraiment, qui était vraiment pas simple. Je me plains pas beaucoup, mais celle-là, elle était dure. Franchement, c'était difficile.
On t'a changé l'aorte finalement ou pas?
Finalement, tout s'est bien passé.
Ouais.
J'ai mon aorte naturelle. Ouais. Voilà, on m'a mis une valve mécanique. L'opération s'est très bien passée. Voilà, c'est moi qui ai eu mal après physiquement, mais l'opération s'est très bien déroulée. On pouvait pas mieux.
D'accord. Donc tu passes cette semaine, tu sors. C'est quoi l'immédiat après? C'est-à-dire qu'on te dit, allez, il faut retourner dans la vie, il faut aller au travail, ou pendant 2 mois, il faut regarder Pierre Belmar dans son pieu. C'est quoi c'est quoi ta vie après? C'est quoi ce qui te recommandent les médecins?
Alors, sommeil à fond, mais surtout couplé à une rééducation cardiaque. Il faut rééduquer son cœur à l'effort.
Ouais.
Surtout moi, j'avais pas du tout envie de reprendre une vie plan-plan derrière. Hein. Ouais. Sois bien clair, hein. Moi, je repars en folie. Hein. On m'a sauvé, j'ai un nouveau cœur. On rigole, on m'appelle Iron Man, parce que du coup, j'ai un cœur en titane.
Ouais.
Donc, très vite, je vais retourner à la radio. Donc, je sais que je vais repartir. Hein. Et je suis pas du tout dans une ambiance de me dire, maintenant, c'est vie plan-plan.
Ouais.
Hors de question. Mais en rééducation cardiaque. Je vais à la clinique Turin, à Paris.
Ouais.
Et là, j'arrive, et là, c'est vrai que tu te prends cette réalité en pleine face, que c'est vraiment une opération pour les personnes qui ont 75, 80 ans. Parce que j'arrive, il y a 15 personnes, moyen âge 80 ans. Quand ils me voient arriver, c'est lapin devant un phare. Ça a été, ils me regardent, ils disent, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là, ce garçon, il s'est trompé d'étage. On commence, test d'effort. Ah, je fais un test d'effort, honnêtement, il est fou mon test d'effort, parce que j'ai 23 ans, je suis en pleine forme, je suis trop content là, je suis ressorti. Super test d'effort. Et au bout de 3 jours, là, je fais du vélo à l'intérieur, à la clinique. Et je me rappelle de ce regard de deux papis qui regardent et qui disent, non, mais c'est pas possible. Nous, ça fait un mois qu'on est là, on n'arrive pas à marcher. Lui, il est déjà sur le vélo.
Petit con, t'es un petit con.
Petit con, mais bon, après, moi, du coup, j'étais copain avec tous les petits papis et toutes les petites mamies. Voilà, ça, c'était un bon moment, mais voilà, tous les jours, rééducation.
En fait, cardiaque. Je réalise que Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais toute ta vie, tu as fait du sport, mais toute ta vie, tu as risqué ta vie, en fait.
Exactement. Alors, complètement. Et d'ailleurs, le professeur Fabiani m'avait raconté, donc lui, il suivait beaucoup de sportifs. Alors, il m'avait raconté cette histoire qui m'a bien marqué. Il y avait un hockeyeur, ça ne s'invente pas, qui avait la même chose que moi, qui lui courait au Bois de Boulogne au même endroit que moi. Lui, il est tombé, il est mort. Voilà. Lui, il est tombé, il est mort. Donc, il m'a dit, tant mieux que tu as fait du sport parce que ton cœur a pu pomper deux fois plus,
ouais,
parce qu'il n'était pas fatigué, parce qu'il était entraîné.
Et puis ça t'a permis d'avoir une jeunesse.
Et ça m'a permis d'avoir une jeunesse, parce que si on avait découvert ça, si on avait suivi mon souffle au cœur, on va dire de façon assez drastique, on le suit année après année, à 17-18 ans, on aurait su qu'à un moment donné, il fallait que je me fasse opérer. Et le médecin, il disait à ma mère, tant mieux, parce qu'il me dit, au moins votre fils, il a une jeunesse, pas inquiétante, vous non plus, voilà.
Mais... Pardon, c'est un petit retour en arrière, mais t'étais jamais allé, on n'avait jamais écouté ton cœur avant. Dès qu'on va chez le médecin, on se fait écouter le cœur.
Alors oui, mais alors on l'a jamais noté. On m'avait déjà dit que j'avais un souffle au cœur, mais on n'était jamais allé chercher plus loin. Ouais. Je suis déjà allé à l'hôpital parce qu'un jour, la veille avant de partir aux États-Unis, je pense que le stress, j'étais assez jeune, j'ai eu une migraine tellement forte qu'on est parti à l'hôpital sous perf, etc. parce que j'arrivais pas à prendre de médicaments.
Ouais.
Je suis sur un lit d'hôpital, dans un grand hôpital. Personne ne m'a rien dit.
Ouais.
Voilà, je partais le lendemain, donc imagine si là, quelqu'un m'avait dit, attendez, attention à votre cœur, je ne serais pas parti, on aurait enchaîné.
Ouais.
Voilà, alors est-ce que je suis passé à travers, tant mieux, pas tant mieux, mais oui, j'ai vu des médecins.
C'est dingue.
J'ai vu des médecins.
Donc là, tu es en rééducation.
Oui.
Tu as des contraintes au quotidien, à part tes médicaments et cette prise de soins?
J'ai contraintes de mobilité.
C'est-à-dire
que j'ai du mal à bouger, je peux pas me baisser. Non, j'ai mal. Ma contrainte, elle est physique. J'ai mal. Je dors avec un coussin qui s'appelle Jean-Jacques. C'est le coussin des femmes enceintes, ce gros boudin. Voilà.
Coussin d'allaitement.
Et donc, on l'appelle Jean-Jacques. Hein, je vous le dis parce que du coup, ma femme, elle l'a récupéré quand elle était enceinte et c'est Jean-Jacques. Et ce Jean-Jacques, j'ai un souvenir impérissable de lui qui a partagé mon lit. Ah, c'était excellent. Parce que franchement, je pouvais pas dormir. Je pouvais dormir à la limite sur le dos.
Ouais.
Mais il fallait pas que je bouge, surtout pas sur le ventre, vous imaginez bien, parce que sinon, claque. Donc, je dormais, câlin avec Jean-Jacques. Je dormais avec mon coussin. C'est ça mes contraintes.
Okay.
Après, en termes de nourriture, etc., non. J'ai juste dû au fait que je prenne des anticoagulants. Il faut arrêter de manger des aliments qui ont de la vitamine K.
Okay.
Je savais même pas que cette vitamine existait. C'est tout ce qui est laitue, tomate, chou. Voilà. Après, il y a une liste d'aliments que je dois plus manger du tout ou que je dois manger tout le temps.
D'accord.
Il n'y a pas d'entre-deux.
Ok.
Pas me bouffer une tomate comme ça et après ne plus en manger pendant 2 mois, c'est pas bon. Parce que mon taux va varier.
Et donc, ta vie, elle reprend comment?
Elle reprend assez vite. Dès que je finis la rééducation cardiaque, je repars à la radio.
Ok. Ils ont été sympas avec eux, avec toi, là?
Adorable. Et je me souviens, j'ai énorme. Déjà, je ne suis pas gros et j'avais beaucoup maigri. Évidemment. Donc, à l'époque, je devais faire à peine 60 kilos. Je sors de la radio, je sors de l'hôpital, je fais 50 kilos.
Ok.
Avec l'OPA.
Et tu es très grand.
Et je suis assez grand. Donc, ça fait un effet. Tu ne sembles pas en forme, le bonhomme.
Ouais.
Et j'arrive à la radio, ils sont super sympas. Et moi, très vite, honnêtement, je reprends ma vie d'avant. Et très vite, je reprends ma vie d'avant en foufou. C'est-à-dire, après, je me rappelle que j'appelle mes copains, je dis, attends, les gars, c'est bon, on retourne. Moi, j'avais demandé avant que tu sortes de l'hôpital, il y a le médecin qui vient et qui, vous avez des questions, vous voulez qu'on parle un peu de la suite. Moi, je me souviens que je lui avais dit, est-ce que je peux refaire la fête? Enfin, mes seules préoccupations, je me souviens, c'est est-ce que je peux faire la fête? Quand est-ce que je peux recoucher avec quelqu'un? Et qu'est-ce que je dois pas faire?
Ouais.
Voilà. C'était à l'époque de 23 ans, mes préoccupations, mais tant mieux! Tant mieux. Et donc, très vite, on ressort. Très vite, je me sers de ma cicatrice. La petite chemise ouverte, qu'est-ce qui se passe? Un requin. Non, mais très vite, je raconte cette histoire. Honnêtement, je me dis, là, à ce moment-là, je travaille à la radio, j'ai une cicatrice. Enfin, je suis pas loin d'être Brad Pitt, là, dis donc. Voilà, très vite, je reprends une vie.
Tu t'en sers pour draguer, quoi.
Je m'en sers pour draguer, très honnêtement. Je me demande si je m'en suis pas servi avec ma femme, d'ailleurs, pour essayer de la voir.
Ta femme actuelle.
Ma femme actuelle. Voilà, donc très vite, on reprend une vie normale. Pour moi, mes parents, pas du tout. Enfin, mes parents sont inquiets. Enfin, voilà, ils me le montrent pas forcément, mais. Voilà, je sais qu'ils sont toujours inquiets. Là où il faut que je fasse très attention, c'est ça qui fait que la vie n'est plus la même. Si j'ai une infection, quelle qu'elle soit, une otite, par exemple, C'est antibiotique, mais tout de suite, il n'y a pas case médecin ou pas. C'est antibiotique parce que sinon, l'infection, elle se pose sur ton corps étranger, sur la valve, c'est la mort.
Okay.
Il n'y a pas pareil. Là-dessus, il y a beaucoup de choses très. Il y a beaucoup de choses, du coup, il n'y a pas de juste milieu. C'est assez incroyable. Le médecin, quand il me dit il y a une infection, elle se pose, c'est pas après aller vite aux urgences. C'est limite pas besoin d'aller aux urgences, comme ouais. de l'avant, quoi. Parce que c'est. Donc. Et ça, c'est pas moi. Mais ce ouais. n'est pas moi. C'est-à-dire, il faut le comprendre. J'ai une angine, j'ai une otite. Bon, dans 3 jours, ça va passer.
Ouais.
J'ai pas ce réflexe-là. J'ai pas ce réflexe-là. Donc ça, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne à me faire peur, en fait. C'est ça. C'est comme ça. C'est que parfois, j'étais allongé sur mon lit et je me faisais peur. Je me disais, attends, tu vas pas mourir à cause d'une connerie comme ça parce que t'as pas pris un truc. Donc, tu sais, tu prends un peu de peur, tu te mets à transpirer, tu dis, ah ouais, attends, la prochaine fois que j'ai mal à l'oreille, je le prends l'antibiotique et du coup, j'ai mon petit médicament dans ma sacoche, enfin.
Ouais.
Voilà. T'es obligé de grandir. T'es obligé de grandir.
Oui, t'as grandi d'un coup grâce à ça.
J'ai grandi d'un coup. Voilà. J'ai grandi d'un coup sur des trucs où j'aurais pas grandi, mais en même temps, ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui, hein. Voilà. Voilà. Donc, on reprend la vie assez vite.
T'as une nouvelle amoureuse?
J'ai une nouvelle amoureuse. J'ai, exact.
Et qui te dit, hey, et si on faisait le tour du monde?
Voilà. Si on faisait le tour du monde, avec ton cœur en titane. Et là, où, on va dire, il l'a pas fait quand même. Mais je l'ai fait les deux pieds joints. Non, je l'ai fait parce que, à partir de ce moment-là,
encore. C'est tes parents que je vais interviewer, en fait.
Les pauvres. Il n'y aurait pas assez d'une heure pour toute leur détresse. Et donc là, on décide de partir en Inde. Donc je finis la saison à la radio.
Ouais.
Je pars avec un petit pincement au cœur, j'avoue, parce que j'adorais ça, mais je préférais ma femme. Et on part tous les deux avec un backpack plus gros que nous. Et on va faire le tour de l'Inde. Mais, t'es dans un pays sous-développé. Il faut quand même prendre ses médicaments. Donc là, je pars avec 23 boîtes de médicaments, parce qu'en plus, on part, on sait pas combien de temps.
Enfin, c'est pas sous-développé partout, mais en tout cas, il n'y a pas des CHU de tous les coins.
Exactement, oui, c'est exactement. C'est pas sous-développé partout, mais là où nous, ça nous intéressait d'aller, ça l'était. Enfin, ça l'est même, parce que j'avoue qu'on n'allait pas à New Delhi, à Bombay, donc ouais. dans la campagne. Donc je pars avec 23. En fait, on part avec un nombre de médicaments et on se disait, bon, quand il n'y en aura plus, on rentrera. En gros. Très intelligent. Et il faut faire cette prise de sang en Inde. Il faut la trouver, parce qu'encore une fois, je suis pas. Alors, une fois à un moment, on est à Bombay, bon, on va, on trouve une clinique, on le fait, mais à un moment, on est dans les montagnes. Bon, je la fais pas bien, cette prise de sang. Je la fais pas bien et je la fais toujours, en fait, je vis que comme ça. Je la fais pas bien et je vis en stress. C'est qu'à un moment, je me dis, attends, on l'a pas fait depuis longtemps, vite. Et je me souviens de cet endroit. Alors, il n'y a pas de route, parce que la route est du sable. Et on arrive au premier étage, je me rappelle. Premier étage, on arrive dans un bureau. C'était le bureau de la poste, avec une chaise. Je suis même pas sûr que ce soit la chaise, tu sais, qui se baisse un peu.
Ouais.
Je fais une prise de sang. J'ai un résultat qui semble être bon. On se dit, c'est bon. On peut continuer pendant un ou deux mois. Tout va bien.
Okay.
Voilà un petit peu comment... pendant le voyage, tout se passe bien. Mais je découvre que mon corps a mal, du coup.
Ouais.
Tu vois, je découvre que... Bon, je peux porter, je fais tout ça, mais à un moment, j'ai mon dos qui me dit non. Là, tu peux plus. J'ai parfois des petits pics au cœur qui sont normaux, mais quand ils arrivent et les premières fois que tu l'as, tu te dis, OK, bon, là, c'est la fin, il y a un problème. Ouais. T'as le cœur qui serre, parfois t'as des douleurs intercostales, mais quand t'as ta douleur intercostale qui est à gauche, t'as pas la même chose. T'as peur. Je découvre la peur. Chose que j'avais pas du tout. Parce que j'étais aussi protégé, hein. C'est pas juste parce que je suis un foufou, une tête brûlée. Parce que j'ai toujours été dans un cocon. Je suis le petit dernier, donc le petit chouchou. Voilà. Vie en chamallow. Et là, je découvre la peur. Je découvre que j'ai peur. J'ai peur parce que je sens que celle avec qui je suis parti, je sens que ça va être ma femme. Et je sens que j'ai pas du tout envie d'en profiter d'elle que 2 ans.
Ouais.
Voilà. Je commence à avoir peur. Je commence à avoir cette petite peur, moi, qui fait qu'aujourd'hui, on fait un peu plus attention. Tant mieux, cette peur, je pense qu'elle est nécessaire aussi. Si tu décides de fonder une famille, si tu décides de pas avoir une vie solitaire, cette peur-là, elle est importante.
Alors, on va pas raconter en détail, mais tu te fais charger par une vache.
Ouais, ça vous.
Comme c'est sacré, tu peux pas lui taper sur la tête.
Je peux pas lui taper sur la tête. Je me fais charger par une vache, je tombe. Enfin, j'essaye de courir dans le vide, ce qui fait qu'on tombe. Et je tombe sur une pierre. Et voilà. Sur le moment, ça va. Mais ça va pas non plus. Je prends un coca parce que je vais tomber dans les pommes.
Ouais.
Donc, je prends un coca. On part avec ma copine. On est dans une. Je peux pas appeler ça un taxi, hein. C'est une voiture. On rentre dans notre village où on allait. Je me souviens d'avoir appelé ma mère à ce moment-là pour lui dire un je t'aime, parce que je sens que ça va pas et je sens que ça va pas. Donc je lui dis ouais, rien, juste un petit bisou, un petit je t'aime. Je me souviens de lui avoir rien dit d'autre.
Ouais.
Je crois qu'après elle me pose une question dessus. Je lui dis attends, je te rappellerai ce soir. Voilà. Je raccroche, je rentre à la guest house. Je fais faire pipi. Pipi est noir. Noir charbon. Il y a pas de contraste. Je vois ma copine. Je lui dis bon, elle me dit comment ça va, parce qu'elle est très, elle est jamais inquiète pour elle, mais elle est très inquiète pour moi. Et je lui dis, elle me dit ça va. Je dis ah, franchement, ça va, mais je fais pipi l'iced tea. C'était la phrase. Je fais pipi l'iced tea. Elle me dit mais comment ça? Et je lui dis bah viens voir. Et là, on hallucine. Donc là tout de suite, on pense à une hémorragie interne, parce que je n'ai rien, j'ai rien, j'ai que ça. Et je fais pipi toujours noir. On va dans une clinique, vraiment dans un village. Je me souviens d'avoir fait une radio où c'est moi-même qui tient le... Moi, je connais pas ça.
La plaque.
Qui tient la plaque, voilà. On voit qu'il n'y a rien qui est cassé. Et là, le médecin nous dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez fait un accident de scooter? J'ai dit, un accident de vache. Il ne croit pas, etc. Donc, on lui explique. Et là, toute la nuit, on fait ce qu'on appelle une urine collection. C'est-à-dire, il y a ma femme qui dort à côté de moi. Et moi, je fais pipi dans un bocal à chaque fois que je fais. Et on les a, les 12 pipis, comme ça, qui sont de plus en plus clairs. Bon, et après, on sort et on continue la vie. Voilà, ça nous caractérise bien. Voilà, on a cru qu'on allait mourir 24 heures avant. On fait du pipi, le pipi est clair, on part. Et on repart dans un
village. Et on saura jamais ce que c'était.
Et il faut vraiment pas que mes parents écoutent.
Donc, on peut le dire parce que tu l'as dit 30 fois, ça devient ta femme.
Ça devient ma femme, effectivement.
Vous avez une petite poupée.
Magnifique.
Et tu vis toujours à 2000 à l'heure?
Alors, cette rencontre était dingue. Moi, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu tenter des trucs. Et en vrai, comme beaucoup d'hommes, on est très peureux. On est très peureux, on attend toujours quelque chose. Dans la vie, on attend toujours quelque chose. Bon.
Et moi, que tout soit en place pour pouvoir faire son rêve.
Exactement. Et parfois, même quand tout est en place, on le fait pas quand même parce qu'on manque de courage. Elle est arrivée. Donc, nous, on se connaissait un petit peu avant, mais bon, on s'est vraiment connus après mon opération. Donc elle est arrivée avec toute cette joie de vivre, alors qu'elle a connu, a perdu sa maman à 14 ans, qui est pour moi un malheur terrible. Et je la vois joyeuse. Je vois qu'elle a envie de vivre. Je vois qu'elle a envie d'aventure. Je vois qu'elle est tout le temps souriante, le sourire de Julia Roberts. Et je me dis attends, ta pauvre opération du cœur, toi, dis-moi, tu vas la suivre, voilà. Et en fait, elle a été vraiment le coup de pouce, tu vois, qui te fait allez, on y va, elle y va. Elle y va, elle a un sac à dos, tu vas pas ne pas y aller. Donc au début, on a une vie bien à 2000 à l'heure, et après on a une vie de couple. Hein. Après, non, très vite, un peu plus calme, mais on a bien vécu, on vit bien. Voilà, on rigole bien, on fait plein de trucs, on s'empêche pas de faire Space Mountain.
D'accord. Vient le Covid. Et toi, c'est... Pour tout le monde, c'est dangereux, mais tant qu'il n'y a pas la vaccination... Tu fais partie des gens qu'on dit à risque.
Tout à fait.
Et donc, tu es dans le sud.
Voilà.
Et est-ce que tu peux nous raconter les conditions de ta vaccination?
Ah ben, bien sûr. Alors, donc tout ça se passe à Paris. Au moment où ma fille naît, et toujours grâce à ma femme, on part dans le sud. Donc, au bout de 15 jours, on est dans le train avec la petite. On arrive dans le sud. Un an et demi après, il y a le Covid. Donc... Je vous passe tous les appels de toute la famille tous les jours pour savoir si j'ai le Covid, j'ai pas le Covid, si je respire, j'ai mal. Voilà. Donc tout va bien, je le chope pas. À un moment, dès qu'il y a la vaccination, évidemment, je me fais vacciner dans les premiers. Et là, donc je me fais vacciner à Cannes, au palais du festival, c'est Cannes, c'est classe. Et là, j'arrive dans un hangar où j'ai l'impression de retrouver ceux de la clinique Turin. Il y a que les vieux. Et moi au milieu. Et là, incroyable. Je rentre dans une pièce, on ferme le rideau. Arrive l'infirmière pour me faire le vaccin. Bon, elle me dit, est-ce que vous avez des problèmes de santé?
Oui, elle doit être étonnée de voir quelqu'un avec ton profil.
Exact, elle me demande, elle me dit, voilà, il y a une raison pour que vous soyez là.
Ouais.
Je lui dis, j'étais opéré du cœur. Elle me dit, ah, d'accord, où ça? À Paris? Où ça? À Pompidou. Et je lui dis, je sais pas pourquoi je lui dis, peut-être pour me la raconter, je lui dis, par le professeur Fabiani. Et là, elle pose son stylo et elle me dit, professeur Fabiani à Pompidou? Je dis, oui, exactement. Elle me dit, c'était mon amoureux de jeunesse. On est resté quelques années ensemble. Et après, moi, je suis venu ici. Incroyable, elle m'a donné son nom.
Il y a 30 ans,
je tombe sur elle. Je pourrais tomber sur celle d'à côté. Je viens me faire vacciner. En plus, moi, j'avoue qu'au début, j'étais pas chaud. Pas parce que je veux pas me faire vacciner ou pas du tout. Je suis pas du tout anti-vax. Parce que, toujours pareil, on verra après, tout va bien. On est toujours dans cette inconscience un peu. Et je tombe sur cette dame-là. Incroyable. Et donc, en fait, plein de petites choses toujours me relient à cet événement-là.
Ouais.
Voilà. Même quand tu le veux pas, en fait, quand il t'arrive quelque chose comme ça, peu importe ce que c'est, il y a toujours quelque chose qui te relie.
Qui
ça te garde la vie. Voilà. Ce qu'on pourrait penser. Tu te fais opérer du cœur à 23 ans. J'en ai 34. J'ai un enfant, j'ai une femme, j'ai changé de vie. On peut dire, ça y est, là, on l'oublie. Et non. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours, ta vie est reliée à ça. Voilà.
Jusqu'à même très récemment, parce que t'as une petite fille.
Oui.
Tu peux nous raconter.
Bien sûr. Alors, on sort d'une soirée exceptionnelle, gala de danse. Elle a 5 ans. Donc elle danse, tout va bien. Je la récupère. Je lui ai pris un petit bouquet de fleurs. Je la récupère aux sorties des vestiaires. On est dans la voiture. On se dirige tranquillement vers le McDonald's. Voilà, il est 23h. Et là, elle me dit, papa, vraiment, là, je rigole pas. J'ai mal au cœur. Bah, je lui dis, t'as mal au cœur, ouvre la fenêtre. Première réaction. Elle me dit, non, mais j'ai pas envie de vomir, j'ai mal au cœur. Bon, là, j'avoue, ce que je ne fais pas pour moi, ce que je n'aurais jamais fait pour moi. Moi, je rentre, je me couche et on verra demain. Je me souviens qu'on est au drive. On est au drive. Je peux pas faire demi-tour à ce moment-là parce que j'ai une voiture derrière, j'ai une voiture devant et je veux le Big Mac. On récupère la bouffe, on pose ça. Je dis à ma femme, je te dépose à la maison. Je vais avec la petite aux urgences. Il n'y a pas d'hésitation. On dépose ma femme. Tout de suite, on part aux urgences. Elle a le manche et nuggets derrière. Moi, je mange le Big Mac en roulant. On arrive aux urgences, je leur explique. Donc, on arrive à l'hôpital de Cannes, au Broussailles. Super prise en charge. Moi, je connais pas ça, mais c'est quand t'arrives avec un enfant dans les bras, on prend en charge tout de suite. Donc, je lui dis qu'elle a mal au cœur, mais qu'il n'y a pas de. Voilà, que je suis inquiet par rapport à mon passif.
Ouais.
On voit le médecin, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Moi, stressé, comme je ne l'ai pas été pour moi, mais voilà. On joue, je me souviens que j'avais amené des cartes. On joue aux cartes dans la salle d'attente. Le médecin la voit. Écoute son cœur, fait les trucs. Bon, il nous dit, il n'y a rien. Moi, désolé. Bon, en vrai, quand je vais voir le médecin, je suis désolé d'être venu pour ça. Voilà, mais je lui dis, je ne peux pas venir. Je ne peux pas aller me coucher comme ça. Et là, bah, justement, on va faire une échographie.
T'es devenu ta mère, quoi.
Je suis devenu... T'as faim? Tu veux manger? Et du coup, il m'a prescrit qu'on va faire là, justement, une échographie cardiaque pour elle. Voilà. Et elle, on la suit. Alors... on la suit pas plus que ça, mais dès que je vais si par exemple elle a un petit peu mal à la gorge et qu'on va aller chez le pédiatre, tout de suite, toujours je fais écouter son cœur, voilà. Et donc moi je dois faire aussi une échographie par an que j'ai fait, mais que j'ai pas toujours très bien fait. Maintenant que j'ai ma fille, c'est-à-dire que je voudrais en faire une tous les 3 mois parce que je pour elle, voilà, je voudrais. C'est ça où j'ai changé. C'est que là, par exemple, là, j'ai envie de partir et d'aller faire une échographie. Et à chaque fois que je vais voir, je dis, comment ça va? Est-ce que je peux dire à ma fille que ça va? Ma femme? Et toujours, c'est toujours le même. Et il me dit, bon, vous rassurez votre femme et votre fille, tout va bien. Ils gardent leur papa pour l'instant. Donc voilà, maintenant, j'ai, je vis pour elle. Pour, avec un S. C'est ça, mon leitmotiv. C'est ça.
Merci.
Thank you.